un petit mini concert de notre frère Molenda. Et il va nous chanter des vieux chants aussi. Des vieux chants que nous aimions chanter autrefois, il y a 30, 40 ans en arrière. Mais pour le moment, on va écouter une prédication que le Seigneur a mise sur son cœur. Michel Molenda. Il est là avec sa femme et ses trois enfants. Michel Molenda, je l'ai connu, il était tout gamin. Et il est le fils de Marion Molenda, le premier pasteur qui m'a fait prêcher en France. Je suis rentré dans l'église, il m'a dit, toi, tu prêches. Il ne me connaissait pas. Oh, peut-être, oui, quand même, un peu. Camélia lui avait parlé de moi, sûrement. Ah, oui. Et donc, j'ai prêché. La première fois que j'ai prêché dans une église, c'était dans l'église de son papa. Il y avait là Edwige, sa maman. Ils sont partis tous les deux dans la gloire, mais bientôt, on va les retrouver, comme on a chanté le chant là. Et on va aussi retrouver Mamie Madeleine et tellement d'autres personnes bien aimées. Écoutez bien la prédication que je vais vous donner jeudi à ce sujet, ça sera très important. Nous avons vraiment un privilège, parce que c'est rare, c'est difficile de l'avoir. C'est très difficile, c'est un peu comme une savonnette. Vous croyez que vous l'avez, il glisse des mains. Ce matin, on est très contents. Dieu te bénisse, mon frère.
Merci pour
votre accueil à tous. Et sois béni, nous t'écoutons. Pas plus de 4 heures.
Non.
D'accord.
Je dirais que je m'arrête à 3h55.
Bon, ça va.
Bonjour à tous et merci pour votre chaleureux accueil. Je suis heureux de revoir les visages de ceux que je connais et de voir aussi ceux que je ne connais pas. Alors, pour les présentations, notre cher frère Michel Genton a été aussi très chaleureux. Et c'est vrai que j'ai eu un grand privilège, c'est d'avoir un papa comme celui que j'ai eu. Parce que certainement j'en avais besoin. Je me suis dit parfois, mais qu'est-ce que je serais devenu si je n'avais pas eu un papa pasteur, serviteur de Dieu ? Certainement que je me serais égaré quelque part. Un petit peu un tempérament artistique, ça peut vous emmener très loin, parfois trop loin. En tout cas, votre frère, votre pasteur Michel Genton, je le vois déjà chanter en duo avec Sylvie Vartan. Je pense que sa femme ne sera pas jalouse. Parce que, comment dirais-je, je crois qu'il y a de l'amitié dans nos cœurs pour beaucoup de personnes et il nous faut prier. Je reviens de Belgique et je remercie le Seigneur pour votre invitation parce que depuis quelque temps, ce genre d'invitation est en train de me faire beaucoup de bien personnellement et par conséquent aussi à notre petite famille Molenda, mon épouse Magali, et les enfants. Parce que nous sommes passés par une sorte de période particulière, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, mais c'était encore une école de Dieu. Et on est toujours à l'école, n'est-ce pas ? Avec le Seigneur, c'est une bonne école. Je ne sais pas si on arrive à passer l'examen, mais on a toujours un rattrapage. Donc, au travers de nos bien-aimés qui nous invitent en ce moment, ben, je crois que c'est un très bon rattrapage aussi pour continuer la vision, le ministère. Mon épouse m'a dit, tu ne vas pas encore donner les vieux témoignages de tes parents, donne tes propres témoignages. Elle a raison. Mais c'est vrai que j'ai eu une forte empreinte. J'étais dans le sillon de mon père, on a fait ensemble des millions de kilomètres, on était tout le temps en mission, on a vécu ce qu'on appelait autrefois par la foi, c'est-à-dire sans la sécurité sociale, sans salaire, et Dieu a toujours pourvu. Maintenant, ça décoiffe un peu tout ça. Hein. Mais voilà, c'est sans doute là que le Seigneur a voulu que nous soyons, et ce matin, nous savons qu'il n'a fait ce rendez-vous particulier pour que nous soyons les uns avec les autres fortifiés par le Seigneur. On en a besoin. Certains peut-être sont devant leur écran de télévision ou d'internet et peuvent suivre différents cultes ou messages à travers le monde. Mais la communion fraternelle réelle, et non pas virtuelle simplement, elle est, comment dirais-je, incontournable. C'est pour ça que vous êtes venus ce matin, vous avez fait l'effort de venir ici et nous-mêmes, nous avons un privilège, c'est que un voisin a vu que nous étions sans véhicule et il m'a offert sa voiture. Ah, c'est une voiture, c'est pas le dernier modèle de chez Citroën, elle a 26 ans. Mais toutes ses dents. Elle nous a conduits jusqu'ici. Et nous bénissons le Seigneur parce que je ne m'attendais vraiment pas à ce cadeau. J'ai un tas de voitures, mais ils ont tous un problème. Alors, Seigneur m'aura donné une qui fonctionne. Gloire à Dieu. On a toujours eu plein d'aventures avec les voitures. Un jour, en allant en Pologne, on a eu un tas de pannes, et puis en fait, c'est la pompe à eau qui a rendu l'âme, si on peut dire. Et on s'est retrouvé bloqué, parce qu'en Pologne, il y a 20 ou 30 ans en arrière, il n'y avait pas beaucoup de voitures, et encore moins de pièces détachées. Surtout des voitures françaises. Et là, nous étions avec notre Simca, Chrysler, complètement en panne. La voiture chauffait, la pompe à eau. C'est d'abord un Mirage Chalfeyrand qui nous a dépanné, mais 5 km plus loin, on était encore en panne. Et là, nous avons trouvé un garagiste qui était dans son cambouis, avec son atelier assez rudimentaire, ses vieux outils. Et il a dit, écoutez, c'est la pompe à eau, mais il y a espoir que je vous trouve une pompe à eau. Alors on était étonnés, il dit, oui, il y a un homme qui est taxi de mes amis, il a la même voiture que vous. Alors on s'est dit, mais est-ce qu'il va lui démonter sa pompe à eau pour mettre sur la nôtre? Il dit non, mais en Pologne, comme il manque de tout, je suis sûr qu'il a toutes les pièces en double. Effectivement, mais il a dit, ce soir, il est tard, je ne peux pas faire la réparation, donc vous allez venir chez nous. Et vous allez dormir chez nous. C'est pas beau ça? Je ne sais pas si le garagiste du coin il fait pareil avec les touristes. Il paraît qu'il faut qu'on améliore l'accueil en France pour que la France puisse un petit peu se ressaisir. On n'est pas assez sympa, semble-t-il, avec les étrangers. Alors là, c'était au contraire un accueil extraordinaire. Évidemment, on parle la langue polonaise, donc ça facilite les choses. Et nous voici dans ce foyer, son épouse, charmante au demeurant. Et on dîne ensemble et puis on nous prépare nos chambres. Et voilà que le lendemain matin, l'homme retourne à son atelier et la dame nous fait une confession. Parce que elle a su que nous étions tout simplement des enfants de Dieu. Quand nous avons demandé la permission de prier ensemble, à table, etc., elle a été touchée. Et elle dit, voyez-vous ce qui s'est produit hier soir? Depuis 6 mois, je ne parlais plus à mon mari. Il ne se parlait plus. Avec mon épouse, nous, on se parle plutôt. Des fois, même, mon épouse parle beaucoup et très fort, comme ce matin. et là, c'était au contraire, c'était le silence radio. Ils ne se parlaient plus parce qu'ils étaient fâchés. Alors, on se boude, on ne se parle plus. J'espère que vous parlez toujours à votre pasteur, à votre époux, à votre épouse. Parce qu'il y a des moments difficiles dans la vie, c'est vrai. Et il faut franchir le cap. Eh bien voilà, cette femme a dit, pour la première fois depuis 6 mois, nous nous sommes reparlés. Alléluia. Il y a eu une réparation, non seulement de la voiture, mais une réparation conjugale. Il y a tellement aujourd'hui de tristes choses, des séparations. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y en a un qui n'aime pas ça, qui n'aime pas le mariage, qui n'aime pas. Pourquoi est-ce qu'il n'aime pas? Ben, je pense avoir compris. Il me semble, vous me corrigerez si je dis des bêtises, hein, ma femme ne manque jamais une occasion, et elle est visible, non pas comme celle de l'inspecteur Colombo, qu'on a attendu longtemps. Hein. Vous voyez plus son chien que sa femme, ou sa vieille Peugeot. Eh bien, il me semble que les choses de la terre sont une représentation des choses à venir. Et je crois bien même que c'est écrit ça, quelque part, n'est-ce pas? Je pense que c'est dans la Bible. Je n'ai pas vu dans le Coran. Mais là, dans la Bible, j'ai trouvé ça et j'ai compris que le mariage, c'est un avant-goût du ciel. Alléluia! Alors, l'autre fois, mon épouse parlait avec un jeune converti à l'islam. Il savait pas trop quoi il s'était converti à l'islam. C'est comme ce jeune homme guadeloupéen qui me dit, j'ai choisi l'islam parce que ça m'a paru viril. Ben, j'ai dit, vous pensez que Jésus n'était pas viril? Il s'était pas comme on l'a représenté au Moyen-Âge. Jésus, c'était un homme bien charpenté, n'est-ce pas, Michel, comme toi? Il avait travaillé avec son père, très dur. C'était un homme. Et quand il a résisté à Satan, il fallait être viril, n'est-ce pas? Ah! Et voilà que Mon épouse, elle dit à ce jeune homme, mais c'est quoi pour vous le paradis? Vous savez que s'ils sont très méritants, hein, s'ils tuent des mécréants ou je ne sais quoi, on leur promet 70 vierges au ciel. Il m'a dit, c'est quoi? Je ne veux pas dire le mot qu'elle a employé, mais c'est quoi pour vous le paradis alors? Ça commence par un B. C'est ça pour vous le paradis? Ça va être une grande nouba là-haut? Alors c'est bien ramené à peu de choses. Hein. Ce que le Seigneur a dit, c'est que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, il l'a préparé pour ceux qui l'aiment. C'est pas merveilleux ça? Alors on a évoqué papa, maman Molenda, Madeleine, que j'ai bien connue, la sœur Camélia. On dirait qu'ils sont toujours vivants, parce qu'ils ont laissé une empreinte dans nos cœurs. Notre frère Guy Chaffray. Voilà, autant de personnalités différentes que nous avons connues, et tout à coup, ça a paru si vite, si rapide. Ils sont plus avec nous, dans un sens, mais ils ont laissé une forte présence dans leur témoignage. Il y en a d'autres qui ont laissé de mauvais témoignages. Un enfant de Dieu n'est pas supposé laisser un mauvais témoignage. Ça peut arriver aussi. De toute ma vie durant, auprès de mon papa, je ne l'ai jamais vu commettre un écart envers qui que ce soit. Je ne sais pas s'il l'a fait dans mon dos, mais moi, je ne l'ai pas vu. Pour moi, c'est un bon témoignage. Alléluia. Il avait une autorité naturelle. Il n'a pas besoin de tout casser. Quand il faisait une remarque à quelqu'un, la personne était profondément touchée. Et il avait la manière de le faire aussi. Parce que ce qui émanait de lui, c'était surtout l'amour du Seigneur. Alors j'en conclue une chose. C'est que pour que nous soyons véritablement des bons chrétiens, je repense à un frère aussi qui nous préparait à manger, il dit « Je vous ai préparé de l'étouffe chrétien ». C'était tellement épais, n'est-ce pas? Des fois, nous sommes un peu trop épais spirituellement. Et nous arrivons à étouffer les gens. Mais que nous soyons plutôt remplis de la présence du Saint-Esprit, qui est la présence du Seigneur Jésus lui-même, en nous. Comme disait Jean-Baptiste, il faut qu'il croisse et que je diminue. Il a tellement diminué qu'on lui a coupé la tête. Hein, parce que il était complètement consacré à sa mission, qui n'était pas facile. Préparer le chemin du Seigneur. Il l'a payé de sa vie. Alors là où je veux en venir, c'est que le mariage, je ne veux pas vous parler que du mariage ce matin, et je ne sais pas pourquoi cette pensée s'est imprimée dans mon cœur, parce que je suis marié, puis maintenant je sais ce que c'est. N'est-ce pas? L'amour rend aveugle, le mariage rend la vue. C'est bien connu. Eh bien, c'est vrai. Moi, je connais un frère, je vois, c'est un jeune retraité. S'il y a une candidate ici, je veux bien vous le présenter. C'est un Belge, une fois. Il dit toujours, bah ça va, bah ça va. Donc, il est très positif. Il est petit de taille, c'est vrai. Et il n'est pas marié. Il cherche toujours. C'est un retraité de la SNCB, s'il vous plaît. La SNCF en France, la SNCB... En Belgique, une fois. Et voilà, c'est comme une forteresse. Ceux qui n'y sont pas, ils veulent y rentrer. Et ceux qui sont dedans voudraient bien en sortir. C'est compliqué, la nature humaine. Jamais content. On dit que le français est un râleur. Ici, je trouve que c'est une église à peu près française. Mais si vous allez à Paris, c'est des églises plutôt africaines. N'est-ce pas? Alors, il n'y a pas de râleur là-bas. On saute de joie. Le mariage, c'est une représentation sur la terre, bien sûr, j'allais dire une pâle représentation. Elle n'a pas bien sûr de commune mesure, mais quand même. Et l'église, l'épouse, disent eux, viens Seigneur. Donc ici, l'épouse, c'est chacun de nous qui la composons. Elle est appelée à se présenter devant le Seigneur, irrépréhensible, sans tâche. Oh là là, il n'y a que le frère Molenda qui était... Parfait, semble-t-il. Hein? Moi, je suis pas parfait. Ah, je suis loin d'être parfait. Demandez à ma femme si vous ne me croyez pas. J'ai plein de défauts, mais c'est pour ça que le Seigneur m'envoie encore à l'école. Et au travers de votre invitation aujourd'hui, je peux dire, et puis ce voisin qui nous a donné un véhicule, le Seigneur m'appelle à nouveau à son service, sans doute dans une nouvelle dimension. Avant, j'étais avec papa, j'étais avec maman, c'était super. On a eu des tas de bénédictions, des aventures pas possibles. On couchait par moins 25 ou moins 27 degrés dans les camions, sur les routes des pays de l'Est. Et puis, on a survécu. On a eu plein de choses merveilleuses. Et maintenant, le Seigneur nous ouvre de nouvelles choses. Gloire à Dieu. Et c'est grâce à des frères et sœurs comme vous qu'aujourd'hui, je me sens restauré dans cet appel de Dieu. Alléluia. Donc, il n'y a pas de hasard. Et je bénis le Seigneur pour vous et votre invitation. J'ai une pensée, c'est dans la Bible, hein, rassurez-vous. J'avais à vous laisser dans le deuxième livre des rois. Voilà, c'est court. Oui, Seigneur, tu bénis cette lecture de ta parole, qu'elle puisse avoir un effet, Seigneur, au moins dans un cœur qui a besoin ce matin, Seigneur. Et si ce n'est plus, Seigneur, ainsi que pour moi-même, pour mon épouse, mes enfants, Seigneur, pour chacun de nous, je te prie au nom de Jésus. Amen. C'est au chapitre 6 de Deux Rois. Les fils des prophètes dirent à Élisée, « Voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain. Nous prendrons là chacun une poutre et nous nous y ferons un lieu d'habitation. » Élisée répondit, « Allez. » Et l'un d'eux dit, « Consent à venir avec tes serviteurs. » Il répondit, « J'irai. » Il partit donc avec eux. Arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba, où ça ? Dans l'eau. Je vous l'avais dit que pourrais-je vous enseigner que vous ne connaissiez déjà, sinon l'amour du Seigneur, hein ? Je vois que vous connaissez bien la parole de Dieu. Le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, « Ah, mon Seigneur, il était emprunté !» L'homme de Dieu dit, « Où est-il tombé ?» Et lui montra la place. Alors, Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Puis il dit, enlève-le. Et il avança la main et le prit. Amen. J'arrête là ma lecture de la parole de Dieu. J'ai commencé par vous parler de la représentation du mariage. C'est une construction aussi, le mariage, n'est-ce pas? Moi, j'ai pris quelques kilos depuis que je suis marié. Je suis un peu venu ici pour prendre des cours de culturisme pour me refaire une silhouette parce que sinon, je ne vais plus plaire à ma femme. Hein. Et dans le Seigneur aussi, nous avons beaucoup à apprendre, c'est fondamental, c'est cela en premier lieu. Nous avons lu ici, concernant, pas spécialement le mariage, mais je repense à notre frère de Belgique, il était encouragé quand même, nous étions dimanche dernier là-bas, invités, et en me téléphonant, il dit, il y a des gens qui t'attendent ici, il y a une surprise pour toi. En effet, j'entre dans la salle et je vois un super garçon, élégant, style américain, décontracté, resplendissant. Je mets quelques secondes avant de me rendre compte qui est cette personne. Cette personne, c'est quelqu'un qui a mon âge. Il est 3 mois plus jeune que moi. Et cette personne, c'est le fils d'un serviteur de Dieu éminent aussi, qui, comme mon père, a été un apôtre aussi pour les pays de l'Est, d'origine ukrainienne, chrétien de famille baptiste. Vous savez, les baptistes, les pentecôtistes, les darbistes, les adventistes, les égoïstes. La liste est longue. C'est pas fait pour nous rassembler tout ça. Mais enfin, grand serviteur de Dieu, vaillant soldat du Seigneur, une grande personnalité. Il est toujours vivant, il a 84 ans ce monsieur. Et voilà, c'est son fils aîné. Ils ont eu 8 garçons. Peut-être qu'ils voulaient avoir une fille en définitive, mais ils se sont arrêtés là. 8 garçons. Formidable, hein? C'est comme les 12 tribus d'Israël, hein? 12 fils, c'est quelque chose. Moi, quand j'étais invité dans les pastorales et puis que je disais, voilà, je m'appelle Michel, j'ai 35 ans, je suis célibataire, ah ben j'avais beaucoup de succès. Mais après, quand je disais, j'aimerais bien avoir 12 enfants, ça calmait un petit peu les jeunes filles. Et mon épouse m'a dit, 3, c'est bien, déjà. Bon. Et si M. Sarkozy a dit, c'est déjà une famille nombreuse, quand on est à 3, ben, je dis, merci Seigneur, je suis devenu quand même papa d'une famille nombreuse. C'est déjà pas une mince affaire. Mon fils a eu très peur tout à l'heure dans la voiture. Quand Magali, mon épouse, lui a dit, tu sais où on va, chérie? On va là où le pasteur Michel Janton t'avait attrapé, t'avait plaqué au sol sur l'herbe pour te parler. Oh là, il a fichu une trouille. J'ai dit, pourquoi tu lui as dit ça? C'est vrai qu'il a du caractère, le petit Molenda. Et que moi, comme dit mon épouse, t'es pas un papa pour eux, t'es un papy. Moi qui me croyais beau et jeune encore, elle me dit, je suis pas marié avec toi pour ta beauté. Oh, ben j'ai dit, pourtant, il y en a qui me trouvaient beau, moi. Il y a une fille, elle voulait à tout prix un blond. Voilà. Elle a laissé tomber, puisque ça marchait pas. Et puis, elle a trouvé un autre blond. Mais je dis, ma femme ne me trouve même pas beau. Vous voyez, c'est quand même... Mais, elle s'est quand même mariée avec moi. C'est qu'elle a trouvé quelque chose d'autre. Et je pense que quand on trouve la présence du Seigneur dans quelqu'un, c'est toujours beau. Amen. Que vous aimiez le barbu ou pas le barbu, il est beau. Parce que Jésus est dans son cœur. J'en rencontre les musulmans, ils s'habillent avec le... Il y avait un frère polonais, il dit, mais pourquoi ils s'habillent tous en femmes comme ça? Parce que là-bas, en Pologne, il n'y a pas beaucoup de musulmans. Et encore moins en habits de... religieux. Alors, je dis, mais des fois je les taquine un peu. Mais vous vous habillez comme Jésus, comme au temps de Jésus. Quoique Jésus, il devait être un peu plus élégant, je pense. Parce qu'il ne portait pas des Nike avec une robe. Eh bien, je dis, Dieu maintenant regarde au cœur. Et le Seigneur a dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, en vérité. Et voilà que ce jeune homme, je le reconnais au bout de quelques instants. Mais oui, c'est mon ami Daniel. Ça fait des années que je ne l'ai pas vu. Mais quand je l'ai revu, il y a déjà une vingtaine d'années de cela, il était dans un état catastrophique. Pourquoi? Semble-t-il, il a fait sa propre analyse, que la personnalité du père et lui étant le fils aîné, il s'est senti écrasé. Il s'est senti écrasé. Parce que le père avait une forte personnalité, fort caractère, il s'est senti écrasé et il est tombé dans une dépression grave. Certains savent que la dépression est une maladie grave, n'est-ce pas? C'est pas à prendre à la légère. Quand vous êtes dans la dépression, et Dieu m'a gardé de la dépression, avec tout ce qu'on a passé, cette école de Dieu, je vois des gens pour peu de choses, pour une seule de ces choses par lesquelles on est passé, se suicident. Devant la NPE, devant la caisse de ceci ou cela, à leur travail. Vous voyez, parce qu'ils n'ont pas le Seigneur. Mais même quand on a le Seigneur, on peut être atteint. Quand vous avez un conjoint ou une épouse qui vous dit, ben, t'as plus qu'à maudire Dieu et puis crever. C'est dans la Bible, ça. C'est où? C'est dans Job. Ben, c'est pas pour vous remonter le moral. Et donc, nous sommes, par notre chair, nous sommes vulnérables. Nous sommes vulnérables. Et quand nous avons eu fait de projets, de construire quelque chose avec nos forces humaines, parfois tout se retrouve à néant. Il est important de partager l'amour du Seigneur. Dans ma rue, je voyais un homme qui travaillait très dur. Il récupérait les métaux et puis j'étais heureux de voir de prendre son petit garçon avec lui dans le camion et puis le petit garçon était fier de son papa. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu des doutes sur la fidélité de sa femme et on m'a dit il s'est suicidé. Quand on est déprimé, dépressif, on ne voit même plus la beauté d'une fleur. On passe à côté des choses sans les voir. On ne voit même plus qu'on a des enfants qui ont besoin encore de vous. On ne voit même plus qu'on a une épouse qui peut encore se rapprocher, que les choses sont réparables. Vous devez avoir des cas aussi en mémoire. Tout cela nous pousse à parler de l'amour du Seigneur, à partager. Alors, je n'ai pas loué Bercy, ni le Stade de France, mais comme pour moi et pour vous, le Seigneur vous donne des occasions sur le marché. Nous, on a un grand magasin, un centre commercial qui s'appelle Paris Nord. Ben, c'est une terre d'évangélisation. Parce que les gens, ils vont pas trop vite, ils ont des caddies bien remplis. Ça freine un peu la course. Alors, on se met à parler des banalités, et très vite, d'une manière naturelle, on parle de ce qu'on a dans le cœur. Et qu'est-ce qu'on a dans le cœur ? La feuille d'impôt. On a le Seigneur. Ça fait la différence. Alléluia. Merci Seigneur. Pardon Magali ? Alors, vous savez ce que fait Magali ? Elle évangélise dans les toilettes. C'est un scoop ça, hein ? Vous imaginez l'article ? Elle évangélise dans les toilettes. C'est pas très vendeur. Mais pourquoi je vous dis ça ? Parce que c'est une vérité. J'ai dit, ça y est Magali, là tu as trouvé le lieu où tu peux parler à la femme Tchador. Vous savez ? Parce que là, la madame, elle se dévoile. Il n'y a que des femmes aux toilettes des dames, n'est-ce pas ? Normalement, maintenant on ne sait plus, avec le mariage pour tous, ça va se compliquer. Les barbus vont commencer à mettre leur nez dedans. Mon papa était dans l'autobus et il parlait avec une dame d'un certain âge, une musulmane en habit religieux. Et puis, il y a ma mère qui lui donne un coup de coude et dit « Attention, attention, t'as vu là-bas son mari, le barbu ?» Il était en colère qu'un homme, même d'un âge respectable, parle à sa femme. Alors, Magali, dans le centre commercial où elle fait des portraits d'enfants, de temps en temps, elle va aux toilettes et puis quand elle trouve à qui parler, elle parle aussi, elle peut rendre témoignage. Alléluia. Alors vous prierez pour Magali. Je ne sais pas si il y a des vocations de Madame Pipi. Pourquoi pas, si on peut parler du Seigneur là où les autres ne peuvent pas. C'est pas facile, hein, nous les hommes, d'aller vers la femme voilée. Des fois, il y a même un grillage encore en plus. C'est terrible, hein, n'est-ce pas ? Bon, vous allez dire, il en veut aux musulmans. Non, mais c'est la religiosité, elle existe partout. Nous sommes sortis, mes parents, grands-parents, de cette religion, n'est-ce pas ? Nous étions conditionnés. En plus de ça, on nous parlait dans des langues bizarres. Il fallait apprendre le latin pour comprendre quelque chose. Il y avait des rites incontournables, il fallait faire des gestes, se lever, s'asseoir, sans comprendre, comme à l'armée. Eh bien, le Seigneur, par sa grâce, nous a sortis de cela pour construire avec lui, être ouvriers avec lui. Alors ce jeune homme, Daniel, je vous laisse en suspense, métamorphosé. Il était, lorsque je l'ai vu la dernière fois, c'était sur le Facebook de son père. Il apparaissait en photo, mais je ne l'avais pas reconnu. Je me disais, tiens, c'est un garçon qu'ils ont récupéré, qu'ils sont en train d'aider, un malheureux. Après, je regarde, mais j'ai dit, mais c'est mon ami, il est toujours marqué. Alors, vous savez quoi ? Eh bien, j'ai prié pour lui. J'ai prié gratuitement. C'est-à-dire, vous savez, des fois, la nature de l'homme, on a envie de se glorifier, de dire, voilà, Dieu m'entend. C'est comme Jonas, il était fort énervé parce que quand il a dit une chose, encore 40 jours et Ninive sera détruite, il voulait que ça soit détruit. Et pourtant, c'était une parole de Dieu. Mais c'était une parole d'amour de Dieu. Pour la repentance, n'est-ce pas ? Mais Jonas, il était en colère. Je le savais bien. Et pourtant, Dieu l'avait retiré du gouffre de la mort. D'une manière surnaturelle, évidemment. Et Jonas était en colère après ce Dieu qui ne faisait pas ce que lui voulait faire. Qu'est-ce qu'elle rigolait, la sœur Camélia, quand on lisait l'histoire de Jonas ? Avec la sœur Camélia, de toute façon, on ne pouvait pas sortir de sa caravane sans être mort de rire. Je me souviens encore de ce temps béni, non que dis-je, oui, c'était un temps béni quand même, où Michou, Vous la connaissez sous le nom de Michou?
Bon,
pour pas que je fasse d'un père. Notre chère sœur Michel Chaffrin, comme vous le savez, quand elle était jeune fille, elle a été baptisée par mon papa, si je crois bien. Et puis après, on a voyagé avec les voyageurs et les voyageuses, la sœur Camélia. On est allé dans des trucs pas possibles, ici et là. Et puis en Suisse, nous étions ensemble. Moi, j'étais un petit jeune homme, j'avais 14 ans. Hein. C'était en 71, je crois bien. 1971, à peu près ces années-là. Hein. Eh bien, notre sœur Michel Chaffray, à l'époque, elle partageait la petite caravane de la Camélia. C'est loin tout ça. Hein. Sur les parkings là-bas de Lausanne et tout ça. On allait à ce magasin, il paraît qu'il a disparu maintenant, qui était bien connu à Lausanne. Quel souvenir! Et alors, c'était des crises de rire! Avec Michel, tu dois bien rigoler aussi. Hein. Mais la Camélia, c'était une enfant de la balle. Elle savait ni lire ni écrire, mais elle avait une mémoire d'éléphant. Et puis elle me disait, tu sais Michel, je prie tous les jours pour toi. J'allais dire sur toi, je ne sais pas pourquoi. Il y a un frère allemand, il a mal traduit une fois. Au lieu de « aimez-vous les uns les autres », il a dit « aimez-vous les uns sur les autres ». Ce n'était pas dans le texte, là. Hein. Et donc, la sœur Camélia, bah, avec son originalité folle, elle a réussi à introduire le Saint-Esprit à la cathédrale de Lausanne. Parce qu'elle dit, ah, moi je prêche pas, hein, parce que forcément elle se serait fait taper sur les doigts par l'admission de cigane. Hein. Je rends témoignage. Mais à la fin, vous aviez une bonne dose quand même. Hein. Incontournable, ces hommes et ces femmes de Dieu. Alléluia. Et voilà que Daniel métamorphosé. Ben, j'ai dit, Seigneur, mince, alors ça marche la prière. D'habitude, il écoute plus ma femme que moi, le Seigneur. Vous savez, quand on se gonfle un peu, oh, ça fait... Si je veux aller par là, hein. J'étais baptisé en 1975, ça fait un bail. Hein. J'ai passé mon permis de conduire en 76, je ne suis pas un tout jeune. Donc on peut donner, on se donner à soi-même une importance, hein. J'ai l'expérience. Voilà. Je suis quelqu'un, il faut qu'on m'écoute. C'est pas faux, mais vous savez que quand on est orgueilleux, tout le monde le voit, il n'y a que la personne qui est orgueilleuse qui ne le voit pas. Mais sinon, c'est gros comme un nez de clown sur le visage. L'orgueil, c'est terrible. Alors, j'ai prié gratuitement, Seigneur. Aujourd'hui, je m'en glorifie. Non, je veux glorifier le Seigneur. J'ai prié pour mon ami Daniel et je le vois, je ne le reconnais plus. Il n'est plus dans ses savates, il n'est plus avachi, il n'est plus décomposé. Il est beau, il est magnifique. Les filles tomberaient à ses genoux, mais trop tard. Il est fiancé. Et il va se marier. Et j'ai dit, toi, tu m'as battu, Daniel. Moi, je me suis marié à 43 ans et toi, tu as 56 ans. Tu vas te marier à 56 ans. Et il est radieux. Et je bénis le Seigneur. Il a apporté son témoignage en Belgique. Et j'ai dit, c'est vrai, Seigneur, merci. Merci parce que tu as eu la victoire. Ça a duré longtemps, ce combat, n'est-ce pas? Mais c'est le Seigneur qui a, en définitive, la victoire. Il faut persévérer. Amen. De toute façon, si vous percez, vous verrez. Alors persévérez. Vous savez que Molenda, en Lingala, je ne sais pas si Michel Janton a appris le Lingala, parce qu'il va en Afrique, il y a plusieurs dialectes là-bas, plusieurs langues, n'est-ce pas? Peut-être le Wolof, ou peut-être, je ne sais pas moi, le Sango. En Lingala, en tout cas, Molenda, c'est bien parce que ça veut dire courage, persévérance. Ça fait tout, ça surprend toujours. Quand j'étais aux études, il y avait la liste des étudiants, il y avait les noms, et puis d'un seul coup, il y a un Africain de mes amis étudiants, il dit, c'est toi Molenda? Un blanc? Mais c'est un nom de chez nous ça! Molenda! Il pensait qu'il avait un compatriote. Il m'a raté pour le coup, hein. Je n'ai pas l'air congolais. Persévérance, courage, voilà, c'est peut-être aussi sans doute le Seigneur qui m'a donné à porter ce nom magnifique, hein. Vaut mieux ça que de s'appeler feignant,
Eh bien,
Daniel était reconstruit. Il m'invite à son mariage. C'est pas beau, ça? Ma femme m'a dit, vas-y. Parce qu'il m'a dit, j'ai juste un petit souci, c'est que c'est à 10 000 km d'ici. Il marie une fille qui... de Californie. La Californie. San Diego. C'est là qu'il fait le plus beau. On est compte? Oh, j'ai dit, Seigneur, il faut avoir la foi pour mettre, je sais pas, si j'y vais en famille, vous voyez pas le budget un peu qu'il faut mettre là-dedans? Moi, je suis plutôt en minus à la banque. Mais bon, tout est possible. Il faut que ma femme prie. Parce qu'un jour, nous étions dans notre petit HLM F2. Elle avait invité son papa. Vous savez, mon épouse, je pense que je trahirai rien en disant qu'elle a été élevée, ce qu'on appelle autrefois l'assistance publique, la DAS aujourd'hui. Dès l'âge de 3 ans, elle et son frère aîné, ils ont été placés dans des familles. C'était pas très rigolo. Son frère, jusqu'à présent, porte encore toutes sortes de problèmes qu'il traîne avec lui, y compris d'avoir reproduit son propre itinéraire sur ses propres enfants. Bref, là-dedans, Magali, eh bien, à l'âge de 16 ans, elle est sortie, elle a voulu tout de suite être active. Elle, sans doute, son destin a changé lorsqu'elle a fait apparaître sa petite fribousse dans l'entrebâillement de notre chapelle du Blanc-Mesnil. J'étais ébloui par ce soleil. Et elle était charmée par mes notes de piano, peut-être. C'est sa mère qui venait. Elle était dans le besoin, elle a été hébergée par nos chers frères et sœurs antillais. Et puis, la maman est repartie, faisant son chemin. Et puis, moi, j'ai gardé la fille, en héritage. Et on a eu beaucoup de difficultés. Parce que les uns les autres voulaient me marier avec une telle et pas telle autre. Oh là là, c'était compliqué. Et en plus, ma maman, le temps passant, elle était pire qu'une mère juive. C'est-à-dire, elle voulait plus marier son fils avec la première venue. Ni la dernière, d'ailleurs. C'était compliqué. À tel point que quand on s'est mariés, elle nous avait même piqué le dossier de la mairie. On a dû tout recommencer. Je vous fais des confidences. Hein. J'ai eu une bonne maman, hein, comme la confiture. Elle était merveilleuse. Mais alors, c'est vrai qu'elle avait reporté toute son affection. Comme le Seigneur a dit, hein, en lui j'ai mis toute mon affection. Ben, ma maman, elle avait mis toute son affection en moi. Alors, elle avait bien des modèles de filles pour moi, hein, mais c'était son modèle à elle. Eh bien, le Seigneur nous a aidés. Nous avons pu persévérer. Elle m'a attendu 7 ans. C'est comme pour Léa et Rachel. Rachel. Il a fallu persévérer. Et mon épouse a été persévérante. Après, à la fin des 7 ans, elle m'a mis le couteau à la gorge. Elle m'a dit, c'est cette année ou c'est plus jamais. Et moi, je suis tombé sur une prophétie de mon père. Vous connaissez pas le prophète Molenda? Non, il n'est pas entre Isaïe et Jérémie. Mais un jour, nous étions chez une famille en visite, et puis voici que la grand-mère, elle me dit, voilà, je te donne ça, ça sera pour ton mariage. C'était en 1983, et je me suis marié en l'an 2000. Vous voyez, j'ai eu cadeau à l'avance, moi. Hein. Et c'était un service, il est toujours chez moi. Alors, mon père a pris un stylo, et il a écrit sur la boîte, ceci en cadeau de mariage pour Michel en l'an 2000. Vous vous rendez compte? Mon père a été à l'origine, c'est vrai, de magnifiques vocations, dont nous avons ici un exemple superbe, notre frère Michel Janton, puisqu'il dit avoir prêché pour la première fois à l'invitation du pasteur Molenda spontanément, n'est-ce pas? Et j'ai entendu que ça. Un jeune frère qui s'appelle Miguel, dans une autre église en Belgique, me dit, tu sais comment j'ai eu l'appel? C'est un bon gars, hein, il est jeune encore. Et il tient la route. Et il dit, parce que je m'étais avancé pour l'imposition des mains, et voilà que ton père, qui prie pour tout le monde, pour les malades, pour ceci, pour cela, j'ai rien dit, et il dit, toi, tu serviras le Seigneur. Tu seras un serviteur de Dieu. Nous sommes tous appelés à servir le Seigneur, évidemment, mais comment dirais-je, d'une manière particulière, un appel particulier. Bon, bah, il m'a peut-être dit ça comme ça, le frère Molenda. Hein. Quelques mois plus tard, mon père revient dans cette église, j'étais là aussi, rebelote, il dit, c'est maintenant, je vais aller à l'imposition des mains, et s'il me redit la même chose, c'est que c'est de Dieu. Ouais, il a mis à l'épreuve. Hein. Pof! Toi, tu seras serviteur de Dieu. Et le fait est que c'est un garçon qui, maintenant, auprès du pasteur senior, il est vraiment dans un bon engagement pour le Seigneur. C'est un garçon super, équilibré, jeune en plus. Hein, ça ne fait pas de mal hein, d'être jeune. Hein, esprit ouvert. Et cette église, elle est métamorphosée. Avant, vous saviez comment c'était quand on rentrait dans cette église. Il n'y a plus personne qui voulait le fréquenter. Même les pasteurs les plus austères, vous ne voulez plus les voir. Il n'y avait plus que le frère Molenda qui allait visiter ses frères et sœurs. À nos risques et périls, d'ailleurs. Il y avait les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. Ça ne se voit pas beaucoup en France. Hein. Ça, c'est vu. Ça se voit encore dans certains pays de l'Est. Les formes religieuses. Eh bien, cette église-là, le vieux pasteur avait eu un ministère retentissant, mais tout doucement, avec l'âge, tout ça s'était un peu figé. Veuf, il avait remarié une femme, cette femme a pris autorité dans cette église, et tout le monde était coincé, tout le monde avait la trouille. Ça marchait comme ça, mais c'était très lourd, très dur à vivre. Et voilà que maintenant, là aussi, cette église m'invite à venir régulièrement, et nous avons un partage. Et nous sommes pratiquement parmi leurs derniers contacts. Ils commencent à nouveau à s'ouvrir, à chanter d'une manière beaucoup plus heureuse. Parce qu'avant, c'était pom, 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 pom. À l'enterrement de mon papa, tout le monde a témoigné. C'était pas triste. C'était émouvant. Est-ce que c'était triste? Non. C'était une réunion d'évangélisation. Tout le monde est venu, ceux qui avaient été baptisés par papa, pour rendre témoignage. Nous avons construit, avec l'aide du Seigneur, ouvriers avec Christ, comme ces gens-là, qui? Les fils des prophètes. Vous savez, j'étais présent au dernier souffle de mon papa. On m'a laissé seul dans sa chambre où il était à l'hôpital. Notre frère Michel et son épouse sont venus le voir alors qu'il était encore assisté par beaucoup de d'outils médicaux, et ensuite il est revenu mieux. Parce que dans le premier hôpital, on avait décidé de le laisser mourir, plutôt de le faire mourir. Alors au bout de 3 jours et 3 nuits, je me suis réveillé. Je dormais sur un petit lit de camp à côté de lui, et j'ai compris qu'on avait programmé Papa Molenda pour mourir à la fin de la semaine. Le médecin venait pas le voir, et quand je l'ai attrapé au vol, il l'avait mis au bout d'un couloir où on soignait les fractures. J'ai compris. Il a dit, on ne peut plus rien faire. L'infirmière m'avait dit, il faut juste l'accompagner. Bah, j'ai dit merci. Je préfère une autre balade que celle-ci. Hein. J'ai dit, je l'ai amené ici à l'hôpital, docteur, pour qu'on le soigne. Pas pour attendre qu'il meure, autant qu'il reste à la maison. Il était dans cette optique. Peut-être certains la partagent, je ne sais pas. Mais moi, ça ne me correspondait pas. Je ne suis pas pour l'euthanasie. Bon. Quand on est enfant de Dieu, on a d'autres sources. Et ça ne me paraissait pas bien que les reins bloqués, eh bien, on ne les soigne pas. Il souffrait, il était décomposé. Et on a tous eu une réunion d'évangélisation là-dedans. Les frères et sœurs ont commencé à venir. On a commencé à chanter. Ça a réveillé l'hôpital. Heureusement que c'était en traumatologie. Ils avaient déjà eu un traumatisme pour en avoir un autre. Les infirmiers ont couru. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ils étaient dépassés parce que moi-même, je ne pouvais pas les calmer. Les frères et sœurs, ils chantaient. Puis il y avait des antillais et tout ça. La chambre, l'antichambre de la mort s'est transformée en réunion à la gloire de Dieu. Et puis, il y a une petite soignante qui était là. C'était une sœur, une haïtienne qui avait la foi. Elle a été aspirée, elle est entrée avec nous pour louer le Seigneur, dis donc. Alors les infirmières en chef sont arrivées, qu'est-ce qui se passe ici? Ben, j'ai dit, écoutez, mon papa c'est un serviteur de Dieu, hein, il est très aimé, il y a du monde. Oh là là, Ils n'avaient jamais vu ça. Et là, j'ai dit à Magali, viens. Au petit matin, je suis allé voir le docteur, il n'était pas là. J'ai dit, merci Seigneur, parce que lui, j'aurais rencontré encore un mur. Hein. Il m'avait dit, vous attendez, vous allez voir, il va tomber plus ou moins dans le coma, puis il va mourir avant le week-end. Enfin, merci. C'est ça l'hôpital aujourd'hui. Hein. Quand vous avez passé l'âge, c'est comme la bagnole, elle a plus de 8 ans, on vous fait une bonne reprise. Eh bien, moi j'y tiens, ma voiture de 26 ans. Bon, bien sûr, si le frère Michel Janton, quand il changera de voiture, il me donne la sienne, je dirais pas non. Je la donnerai à ma femme. Voilà. Et c'était une épreuve pour moi. Moi qui avais vécu tant de choses auprès de mon papa, je voyais ça pas d'une manière heureuse. Alors j'ai dit, je vais voir l'urgentiste. C'est lui qui l'a reçu. Ah oui, je vous comprends, je vous comprends. Alors il a alerté un autre médecin d'origine juive. Celui-là, il est arrivé. À bras raccourcis, il disait quoi ? Mais il n'est pas sondé, rien du tout. Tous les infirmiers couraient dans tous les sens. Et il a trouvé une place en réanimation, là où vous avez visité mon papa. Il était à l'article de la mort. Et il est revenu à lui, merveilleusement, je peux dire même miraculeusement, parce qu'ils m'ont dit, faites-lui un bisou quand il montait dans le SAMU. J'ai compris qu'il pouvait mourir dans le transport. Moi, j'ai dit, bien sûr, je lui fais un bisou. Et je lui en ferai encore. Et il est revenu à mieux. Et après, une fois qu'il est sorti de la réanimation, il a vécu encore quelques temps où il paraissait bien. Il était assis sur son lit. Il ne parlait pas beaucoup, mais chantait. Chaque instant de chaque jour. Alléluia. Un de moi. On chantait les vieux cantiques. Et il battait le rythme avec sa main comme ça. On a passé des bons moments tous les deux. Et puis il a plu au Seigneur de le rappeler paisiblement, sans souffrance. Sa tension avait baissé au soir. J'avais alerté la petite infirmière, bah, c'est normal, il a fait de la kiné. Bon. J'ai compris que là, c'était son heure. Dieu m'avait préparé aussi, dans des bonnes conditions. La mort, ce n'est pas ma copine, je ne sais pas pour vous. Mais l'apôtre Paul a quand même réussi à dire, la mort met un gain. Formidable, hein ? Par ailleurs, elle est appelée le dernier ennemi qui sera vaincu. Donc l'enfant de Dieu, en Jésus-Christ, il n'a pas peur de la mort, parce que déjà en Jésus-Christ, elle est vaincue. Amen. Et quand mon papa a rendu son dernier souffle, et je reviens à Élisée, il avait une demande, il était formé par qui Élisée ? Il n'a pas fait l'ENA. C'est pas M. Raymond Barre qui l'a formé. Aujourd'hui, on pense qu'à choses économiques. On a besoin de Dieu. Il était formé par Élie, homme de Dieu. Il était tellement impressionné, moi aussi, par mon papa. J'ai dit, Seigneur. Et Élisée, il a dit, Seigneur, mon maître, que je puisse avoir une double portion de l'esprit qui est sur toi. Alors Élie a dit, bon, pourquoi pas, hein, je paraphrase, hein, pour lire dans le texte, mais il a dit, si tu me vois lorsque je serai enlevé, c'est ça, alors tu recevras. Alors vous imaginez, Élisée, quand il a entendu ça, il en voulait. Il ne voulait pas monter sur les estrades, il voulait la plénitude de Dieu. Amen. Et alors il lâchait plus Élie. Il le suivait partout. Il est à droite, tout à gauche, il le suivait. Il ne voulait pas le perdre de vue. Voilà, je suppose à un moment donné, Élie a dû dire, Élisée, arrête, j'ai besoin d'aller aux toilettes. Il suivait partout. Il ne le lâchait pas. Et voici que il l'a vu. Char de l'Éternel. Et là, il s'est saisi de quoi ? De son manteau qui était tombé à terre. Gloire à Dieu, il nous reste toujours quelque chose. Hein ? De nos anciens, de ceux qui ont été pour nous. Des Élie dans le Seigneur. Hommes et femmes de Dieu. Il faut se saisir de ces bonnes choses. Il ne faut pas les laisser. Regardez même la tunique de Jésus. Les gens, les profanes, ils ont voulu se la partager. Ils l'ont tirée au sort. C'est une image. Mais nous, enfants de Dieu, c'est spirituel. Il faut s'en saisir. Et alors il a dit, voyons voir, ça va marcher, je suis sûr. Et il a frappé. Qu'est-ce qu'il a frappé ? Voilà, pas frappé sa femme ni ses enfants. Il a frappé l'eau. Je crois que c'était le Jourdain. Et le Jourdain s'est ouvert. Ça marche ! Alléluia ! Il était sûr que ça marcherait.
Voici Élisée. Et quand mon papa a rendu son dernier souffle, j'étais visité par le Saint-Esprit. Je me suis mis à parler en langue. Frères et sœurs, j'en tremble encore. J'ai dit, Seigneur, Seigneur, je veux rester dans cet appel, dans cette vocation, dans ta puissance. Au travers de mon papa, tu m'as formé, tu m'as appris bien des choses, mais j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, Seigneur. J'étais bouleversé. Bien sûr, je ne me suis pas pris pour Élisée, mais j'ai voulu saisir la bénédiction de Dieu. Je n'ai pas voulu pleurer de tristesse. Je me suis réjoui et j'ai béni le Seigneur. Je l'ai béni en français, je l'ai béni en langue, je ne sais pas comment, mais j'étais visité par l'Esprit du Seigneur. Alléluia. Je vous encourage parce que ces choses sont vraies. Et voici que dans notre vie chrétienne, tout n'est pas facile. La séparation, pour moi, ce n'est pas facile non plus. Mais je bénis le Seigneur parce que je vois que tout cela a un but, une destinée merveilleuse. Que c'est triste d'être dans ce monde, de ne pas savoir ni d'où on vient, ni où on va, ni qui on est. Vous savez comment ils font maintenant les gens ? Bah, qui suis-je ? Je vais voir sur Wikipédia. Qu'est-ce qu'on dit que je suis ? Bah mince, alors je ne suis pas sur Wikipédia, alors je vais chercher ailleurs. Où vais-je ? Bah, je vais aller voir mon GPS. Comme ça, je serai renseigné, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, le monde est perdu, mais c'est très dur. Quel bonheur de connaître le Seigneur. Nous savons d'où nous venons, du cœur de Dieu. Où nous allons ? Aussi. C'est peut-être pas toujours très clair, mais nous avons la paix dans notre cœur. Et puis, si vous voulez des explications plus détaillées, vous allez voir le frère Michel Janton, qui est un savant aujourd'hui. Alléluia ! Parce que ceux qui sont des Écritures peuvent aussi nous renseigner, nous déboucher l'entendement. Il y a les apôtres, vous connaissez ça, hein ? Les prophètes, le doigt de Dieu, l'évangéliste, bon, on voit sa tête qui domine un peu les autres comme Charles de Gaulle. Et puis le pasteur, c'est celle-là, il est là pour unir l'Église à son Seigneur, n'est-ce pas ? Et puis le docteur, pour déboucher l'entendement. On a besoin du petit doigt. Et vous savez pourquoi les Chinois ne se servent pas de ce petit doigt-là ? Personne ne le sait. Parce que c'est le mien, voyons. Les fils des prophètes, je vais m'arrêter avant 4 heures, hein, c'est promis. Ils ont été à l'école de Dieu, ils avaient l'entendement. Mais ils avaient besoin encore d'apprendre. Et là, il y en a un qui dit... Nous irons maintenant, nous sommes à l'étroit. Et je me réjouis pour le monde qui est ici. C'est bientôt à l'étroit ici, hein ? Gloire à Dieu. Amen. Encore un autre problème. Trouver, s'élargir. Hein ? Mais des bons problèmes. Gloire à Dieu. Et puis, ce n'est pas la quantité, comme dirait l'autre, hein, c'est la qualité. Hein, la qualité suisse. Et nous y ferons un lieu d'habitation. Construire quelque chose. Mais il y en a un qui dit quelque chose d'autre. Il dit... À qui ? À Élisée. Élisée, tu veux bien venir avec nous ? Consens venir avec nous. Ah, voilà un homme sage. Voilà un homme qui a pris une bonne décision. Parce que des fois, on veut foncer, peut-être baisser, parce qu'on est plein de vigueur, plein d'élan, et parfois, c'est charnel plus que spirituel. C'est un peu spirituel quand même, mais on va devant les problèmes. Parfois, ce n'est pas les motivations qu'il faut. Il y avait au temps où nos frères et sœurs étaient dans l'église, nos sœurs Guy et Rachel Chaffray, il y avait un frère qui est venu au Seigneur, il était d'origine polonaise. Sa vie était transformée, il s'est converti, il a vu la lumière de Dieu, tout était changé. Il avait un poste important à l'Air Liquide, une société dont on parle encore aujourd'hui. Et il était tout content. Mais comme il avait certaines capacités, eh bien, et cela nous ne le supposions même pas, il avait de la jalousie dans son cœur. Il aurait voulu aussi dominer, être bientôt le pasteur. Et voilà ce qu'il a fait, il a fomenté une division.
On s'en est rendu compte.
Ça a commencé à murmurer. Alors tout était bon pour faire des reproches, pour dire que le pasteur Molenda, ce n'était pas l'idéal. C'est curieux des fois. Hein. Et ça murmurait dans les chaumières. C'était l'esprit de division, à deux, trois. Si bien qu'un jour, j'entends une chose, mais qui m'a fait une tristesse. Je venais d'avoir mon permis de conduire. Et je roulais avec une superbe deux chevaux de 1962, que mes parents m'avaient offert, celle du voisin. Et puis, il y avait la sœur Fliss. Vous l'avez connue, la sœur Fliss ? Elle était réduite dans son âge à rester dans sa maison et puis alitée. Et puis le Seigneur l'a rappelé à lui. Eh bien moi, entre les deux réunions, nous avions deux réunions le dimanche, j'allais la voir. Et ce jour-là, j'ai pris ma deux chevaux, s'il vous plaît. Vous savez ce que c'est qu'une deux chevaux ? Tout à l'heure, ma fille m'a dit, mais ils sont où les chevaux, papa, que tu as vu ? Puis j'ai dit, il y a une deux chevaux. Une deux chevaux bleue, j'ai vu. Mais j'ai dit, non, c'est la voiture qui s'appelle deux chevaux. Parce qu'on a comparé la force du moteur à la force des chevaux. Et puis, je vais voir cette sœur pour passer un moment avec elle, pour qu'elle puisse avoir un peu un partage. Elle est toute contente. Et puis, j'entends quelques temps après, on m'a reproché que je gaspillais l'argent du Seigneur parce que j'allais, au lieu d'aller à pied, j'avais pris ma deux chevaux. Ça, ça vous encourage, hein. Vous allez voir une mamie, hein, c'est pas votre fiancée que vous allez voir. Et on arrive à vous critiquer. Et ça m'a fait de la peine. Parce que j'étais jeune. Aujourd'hui, on en casse plus, hein. On a les épaules un peu plus larges. Mais ça m'avait fait de la peine. Je me dis, comment est-ce possible que des gens qui se disent chrétiens puissent en arriver là? Ben, il faut prier. Parce que ceux qui ont un véritable appel, peut-être pour monter sur l'estrade et peut-être plus haut, peut-être prêcher du haut de la tour Eiffel s'ils veulent, ben, ils l'auront si ils sont à l'école de Dieu. Dieu saura les humilier et les restaurer. Est-ce que vous le croyez? C'est possible. Eh bien, cet homme qui avait été à l'origine de la division, peut-être 30 ans après, il nous écrit une lettre, il y avait je ne sais pas combien de pages, une bonne dizaine, c'est sûr. On a lu ces pages. Et il confessait toute la jalousie qui habitait son cœur. Il était jaloux de tout ce que faisait le pasteur Molenda, de n'importe quelle mission, n'importe quel voyage. Ça rongeait sa vie spirituelle. Il en était devenu fou. Et c'est ainsi qu'il avait été utilisé par l'adversaire pour empoisonner bien des jeunes frères et sœurs dans la foi. Tout s'est calmé. Comme on a dit, hein, si vous percez, vous verrez. Il faut persévérer. Et le Seigneur a eu gain de cause. Il s'est humilié. Il a eu le courage de le faire. Et ça m'a fait vraiment chaud au cœur. J'ai dit, merci Seigneur. Alléluia. Confessons, annonçons la couleur, les péchés les uns aux autres. Non pas pour prendre un bain de boue ensemble, non. Mais reconnaissons nos faiblesses. Reconnaissons, mais confessons la victoire du Seigneur. Et pour ce qui est de ce récit, ils ont bien fait d'emmener avec eux le Saint-Esprit. Qui nous conduira dans un peu de vérité? Non, dans toute la vérité. Alléluia. Et là, le drame va se produire. Alors qu'il travaille, il y en a un qui se retrouve un peu pitoyable. Il tape fort. Il est fantastique. Mais d'un seul coup, paf, son instrument de guerre, sa hache, elle devient ridicule. Il se retrouve avec un manche. Le fer était projeté dans les eaux, impénétrable. Ah ! Bon, je veux dire, je vais aller chez Black & Decker, je vais me racheter quelque chose. Non ! C'était forgé, c'est un instrument de valeur. Le fer, il était empâté en plus. Catastrophe. Si le frère Michel Janton me prête sa voiture pour faire un tour, et puis que je la démolis, je vais craindre mon retour. Et il était dans cette situation pénible. Mais l'homme de Dieu était là. Ah, mon Seigneur, c'est bon d'appeler le Seigneur. L'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Là, là. Qu'est-ce qu'on va faire? Et voilà, Élisée, pas de problème. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il coupe un morceau de bois. Bizarre quand même, hein. Mais qu'est-ce qu'il fait?
Il va à la pêche.
Il coupe un morceau de bois et puis il jette ce bois à la même place.
Et là, il nous est dit qu'il fit surnager le fer. Ça va contre les lois scientifiques, n'est-ce pas? Mais Dieu, qui est le créateur, pour lui, rien d'impossible. Il gère tout, y compris le cosmos, y compris le matériel, toutes les dimensions que nous ne connaissons pas encore. Il dit, enlève-le. Et il avança la main et le prit. Bien, tous les théologiens vous parlons du bois de la croix, évidemment. Quand Jésus est mort, et c'est pas à négliger, la mort de Jésus, nous la célébrons jusqu'à ce qu'il vienne. Mais nous célébrons aussi sa résurrection. Alléluia. Maudit était celui qui était pendu au bois de la croix, mais maudit à cause de qui? À cause de moi. À cause de toutes nos imperfections, toutes nos misères. Et si quelqu'un ce matin traverse des misères, si quelqu'un ce matin ne trouve même pas le réconfort par des bonnes paroles, parce que parfois on commence à se refermer dans sa bulle, et on est devenu imperméable. Eh bien, il reste encore le Seigneur, le Saint-Esprit, qui peut agir et qui peut faire tomber ses murailles spirituelles. Il peut le faire. Il nous aime plus que n'importe qui. Il vous aime plus que je ne peux vous aimer. Même que le pasteur Molenda aurait pu vous aimer. Que votre pasteur peut vous aimer. Nous, on fait des efforts pour être dans cet amour, n'est-ce pas? Mais être immergé dans cet amour de Dieu. On en a tous besoin. Laissez-vous entourer par les bras d'amour du Seigneur. Et le Seigneur vous conduira dans votre vie. Pour pas que vous fassiez les bêtises. Pour pas que vous vous sépariez de votre conjoint. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans son cœur qui... Il y a le tumulte. Pour pas que vous abandonniez vos frères et sœurs qui ont peut-être besoin de vous aussi. Le Seigneur est là ce matin pour faire surnager l'impossible. Pour faire revenir ce fer d'une manière encore plus glorieuse qu'auparavant. Peut-être tu as passé des dizaines d'années de ta vie. Tu dis, j'ai fait que perdre mon temps. Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit, je vais te restaurer pour une nouvelle vision. Je n'ai pas dit cela pour moi, je n'ai pas perdu mon temps. Mais ces dernières années, on est passé par tellement d'épreuves. Par la grâce de Dieu, pas encore la maladie, etc. Il y a d'autres qui passent par des difficultés, comme Job. Mais là aussi, le Seigneur est là. Alléluia. Je ne sais pas encore quels sont les dons que le Seigneur me donnera d'exercer. Ça se révélera, ici ou là. Vous savez, moi j'aime pas trop quand quelqu'un arrive avec une carte de visite, prophète, ou ceci, cela. Ça doit être évident, ça doit transpirer, alléluia. Ça doit faire que quand vous êtes à côté de quelqu'un, il sent l'amour et il fond comme du beurre au soleil. C'est ça dont on a besoin, j'en ai besoin. Et je vous inviterai à continuer à prier pour mon appel, mon frère m'a fait du bien, quand il m'a écrit « Je crois en ton ministère, Michel ». Vous me bénissez aujourd'hui et je veux vous bénir. Alléluia. Voulez-vous que nous puissions ensemble prier le Seigneur? Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce moment ici que nous avons passé tous ensemble. Tu sais le pourquoi des choses et nous savons Seigneur que tu veux une seule chose, c'est nous bénir. C'est notre bien Seigneur. Tu veux nous entourer ce matin par ta grâce et ton amour. Tu vois peut-être Seigneur qu'il y a ici peut-être quelqu'un, ne serait-ce qu'une seule personne, qui aurait entendu mon message, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de bénir. Bénis les couples, Seigneur. Fortifie-les. Bénis, Seigneur, ceux qui se sont engagés avec toi et qui sont un peu fatigués de la marche. Parce que ce chemin est étroit et il monte. Il est parfois périlleux, Seigneur. Mais c'est toi qui es là, Seigneur. Que ferions-nous sans toi, Seigneur? À quel autre irions-nous qu'à toi, Seigneur? Où irions-nous, Seigneur? Toi, tu as les paroles de la vie éternelle. Alors bénis ceux qui sont fatigués ce matin. Restaure. Et merci Seigneur pour tout ce qui se fait pour ta gloire ici dans ce lieu. Ces chants magnifiques, ces compositions. Que la prière puisse sortir des cœurs. Invoquer ton nom et glorifier ton nom Seigneur. Nous saisissons la victoire ce matin. Nous saisissons l'impossible de Dieu. Merci à combien de fois Seigneur tu as montré des miracles, des guérisons étonnantes et même des résurrections. Pour nous encourager et aussi Seigneur pour faire du bien à ceux qui avaient besoin de cela. Mais maintenant, Seigneur, agis d'une manière profonde et spirituelle. Oui, Seigneur, que même si nous sommes bornes, nous puissions entrer, Seigneur, dans ton univers. Que nous puissions être sauvés d'une manière spirituelle et radicale, Seigneur. Restaurés par la main puissante du Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Parce que j'ai prêché...
Je vais chanter juste un chant, si tu permets.
Oui.
Oui, juste après la Sainte Cène, on fait la Sainte Cène et tu vas chanter le chant. De ce message, vraiment très content. Et avec mon gendre, on s'est regardé parce que on voit comment le Saint-Esprit est en train de diriger. Et on s'est souri, on s'est compris. Je vous invite vraiment à venir sur Révélation Bible vendredi prochain et ceux qui peuvent venir pour écouter la prédication que le Seigneur m'a donnée. Et ça va être encore un bond en avant. Et il a juste posé les pierres pour qu'on puisse faire les premiers pas. Merci Michel. C'était vraiment inspiré. Amen. Alain, tu peux prier pour le pain et le vin. Nous nous mettons debout.